Il nous guette.
Il nous ment.
Il nous tourmente.
Il nous tue.
Il nous ment. Il nous abatte. Il nous insulte.
Mettre la patte. Alors je kiffe quand ça barre. Quand les portes sont débordées. L'image t'aime, tu pas du côté de ceux qui croient encore au changement. Franchement, qu'est-ce qu'on parle de futur et d'espoir? Moi je te parle de guerre. Moi je te parle d'ici et de maintenant.
Ni frontières, ni nation, ni armée, ni prison. C'est ce que nous voulons. Alors nous l'aurons.
Radio Labo, une émission sur Radio Méga, tous les lundis, de 18h15 à 19h, contre toutes les formes d'oppression et de domination, pour détruire ce qui nous détruit.
Bonjour. Voilà, c'est bien l'émission de Radio Labo. Aujourd'hui, j'ai un petit agenda pour la semaine prochaine. Quand même. On va répéter la semaine prochaine, ça ne fait rien. Donc, soirée le jeudi 10 avril, organisée par LGBT de Cré, et c'est sur la situation internationale. Alors, cette soirée est co-organisée par Amnesty International et l'ASTI, avec le film Call Me Cuchu. Voilà. Voilà, téléphone, prenez les renseignements directement Radio Méga. Voilà. Voilà. Autrement, le 11-04, il y a un film au laboratoire qu'un seul tienne et les autres suivront. Alors, une histoire croisée de plusieurs personnes qui se rendent au parloir. Voilà, prison. On capte un peu plus ce que ça signifie d'avoir un proche enfermé, comment la prison pèse à la fois sur les détenus, mais aussi les personnes dehors. Voilà. Le 11 à 20h au laboratoire, 8 place Saint-Jean. Donc, retenez aussi le 12 avril 2014 à Romans. Ça commence à 14h. Salle Charles Michel jusqu'à 20h. Voilà, plein de choses, expo, concerts, chansons françaises, voilà, plein de choses. Voilà, de suite, on va écouter un reportage réalisé la suite du 29 à la projection du film L'explosion au laboratoire. Voilà, voilà.
Une projection au laboratoire anarchiste 8 place Saint-Jean à Valence du film L'Explosion, qui raconte la lutte contre la centrale nucléaire de Chooz dans les Ardennes. Lors de cette lutte a rencontré une autre lutte ouvrière de l'usine de la Chière à Virieux, un village à côté de Chooz. Qu'est-ce que tu penses ce film? S'il te plaît, Pierre.
Bonjour. Bah écoute, c'est un film qui, comme tu l'as dit, est assez intéressant parce que d'abord, il raconte une des plus grosses luttes antinucléaires des années, on va dire, fin des années 70, début des années 80. Une lutte qui a duré quand même plusieurs années et qui, effectivement, vers la fin de la lutte, quand elle commençait, on va dire, à s'étouffer un peu, elle a trouvé un second souffle parce que justement, il y avait les usines de la Chière dont l'usine était en train de fermer. Et le chantage, entre guillemets, qu'on proposait aux ouvriers, c'était de leur dire, bah écoutez, votre usine, elle est rentable, mais bon, la sidérurgie ferme, donc vous, on va vous mettre au chômage, mais ceux qui voudront, ils pourront aller travailler à la centrale nucléaire en construction. Et comme les ouvriers, ils voyaient que les gens du village de Chooz, ils n'en avaient pas envie de la centrale, ils se sont dit, non, on va pas aller à la centrale. Et donc, du coup, il y a eu conjonction entre les deux luttes, où les gens de Chooz et les antinucléaires qui les aidaient, ils sont venus prêter main forte aux ouvriers, et d'un autre côté, les ouvriers ont refusé le chantage à l'emploi qui était de leur dire « on vous balance dehors en quelque sorte, mais en échange, vous allez travailler, vous allez vous faire irradier chez EDF, quoi, en quelque sorte ».
Cette lutte ouvrière était très dure. Les sidérurgistes se faisaient suite de la manifestation de 1980 dans les rues de Paris, assez violente. Les ouvriers sidérurgistes posaient des lingots
Des lingots d'acier, des pyramides de lingots d'acier pour bloquer les chars de la gendarmerie. Effectivement, c'était une lutte qui était très dure. Alors on peut revenir déjà un peu sur la lutte de Chooz qui au début a commencé tranquillement Mais très vite, il y a eu une très forte violence des gardes mobiles qui a radicalisé la population locale et qui a fait que ça a été une lutte assez dure et assez violente. Et donc, du coup, on peut dire qu'il y avait un peu une ambiance dans le coin. Et quand les ouvriers de la sidérurgie se sont mis en lutte également, bah, ça a été aussi tout de suite très dur et très violent. Ce qui, sans doute, les a aussi aidés à avoir l'un des meilleurs plans sociaux de l'histoire de France. Puis ils ont eu leur salaire maintenu tous pendant 10 ans. Ce qui est assez extraordinaire, quoi.
Au chômage,
Pendant qu'ils étaient au chômage, ouais. C'est-à-dire qu'ils ont été mis dehors, mais avec 10 ans de salaire qui continuait à tomber, quoi.
D'accord.
Et pour ce qui est de chaud, bah, c'est vrai que la lutte à chaud a été particulièrement violente, puisque ça a été un peu cocktail Molotov contre blindés de la gendarmerie. Faut savoir que chaud, c'est un petit village. La gendarmerie occupait quasi militairement le village assez régulièrement. Donc les gens se levaient, ils ouvraient la porte, et puis sur la place du village, ils voyaient les quarts de garde mobile, quoi. C'était assez fort. Mais c'était une lutte qui a réussi à tenir dans la durée parce qu'il y a eu une forte organisation de la part des villageois, et en particulier des villageoises, puisque effectivement les femmes organisaient des réunions quasiment journalières pour décider de qu'est-ce qu'elles allaient faire, quelles luttes elles allaient mener, quelles actions elles allaient faire, etc. etc. quoi. Et après, comme c'était une lutte qui a bien pris, il y a des gens qui sont venus de toute la France, et notamment de la région parisienne, donc plutôt des gens anti-nucléaires, on va dire, pour prêter main forte aux gens de chaud, quoi. Donc ils ont participé aux batailles. Il y a eu à une époque, quand le projet a été mis un peu, on va dire, temporisé, il y a eu une manifestation par mois à Chaux qui à chaque fois amenait des personnes de quasiment, disons en tout cas de tout le quart nord-est de la France, des Belges aussi, puisque Chaux c'est à côté de la frontière belge, c'est tout en haut de la France dans les Ardennes. Donc c'est une lutte qui a quand même bien brassé, et c'est vrai que la lutte des sidérurgies de la Chière, ça a permis, ça a été un peu la dernière grande explosion par rapport à la lutte de Chaux dans les Ardennes. Et bon, finalement, c'est vrai que la lutte contre la centrale est un peu retombée. Elle a fini par se faire, la centrale. Mais il y a eu quand même une grosse lutte qui a beaucoup marqué les gens qui ont participé. Ils en ont, en général, un souvenir assez fort. Et ça les a beaucoup formés politiquement également, quoi.
Oui. Autrement, j'ai vu hier dans le film, Mauroy, qui était Premier ministre à l'époque, avait promis avant que de l'élection de Mitterrand, Mauroy, donc à l'opposition à l'époque, et au moment de Premier ministre, dit non, on fait la centrale. Voilà.
Ouais. Voilà. Bah, je crois que plus précisément, c'est le Parti Socialiste qui avait dit qu'il y aurait, c'est pas Mauroy lui-même qui avait dit qu'il n'y aurait pas de centrale nucléaire là où les habitants y étaient opposés. Et puis en fait, Mitterrand, comme pour beaucoup de choses, quand il est devenu président, il a complètement retourné sa veste. Et les seuls qui ont gagné de ne pas avoir de centrale, c'est Plogoff. Et ça a été un peu pour faire passer la pilule, c'est-à-dire que toutes les autres centrales, Golfech, Chaux, etc., elles ont été construites malgré l'avis des populations. Parce qu'il faut imaginer qu'à Chaux, au tout début, ils ont commencé par dire qu'ils étaient contre sur les cahiers d'enquête publique dans les mairies, puis après ils ont mis des gardes mobiles pour protéger les cahiers d'enquête publique parce que les gens le prenaient et le balançaient à la poubelle, quoi. Enfin, tout le monde savait en France et dans le monde entier que les gens de Chaux étaient contre leur centrale. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'ils avaient eu aussi... Avant d'avoir cette deuxième centrale, ils avaient eu une des premières centrales civiles de France, un peu expérimentale, et ils avaient pu constater que bah, ça faisait pas du bien finalement à la nature autour, quoi, la centrale de Chaux. Donc c'est leur opposition anti-nucléaire, on va dire, elle était le fruit d'un travail de réflexion, mais aussi d'une constatation que finalement, bah, le nucléaire, c'est une belle saloperie, quoi. Ils faisaient pas ça par hasard, quoi, on va dire. Ils étaient contre et ils savaient pourquoi ils étaient contre, quoi, ça c'est sûr.
Est-ce que cette lutte a trouvé des enseignements quand même par rapport, je pense, à l'enseignement déjà, l'Assemblée Générale Régulière des Femmes sur la place du village, enfin, horizontale. Une lutte, je pense, c'était une lutte horizontale. Tout le monde, il n'y a pas de spécialiste de lutte, là.
Ben, c'était peut-être pas la première comme ça, mais en tout cas, ce qui fait qu'elle a bien marché, c'est qu'effectivement, les gens, ils s'auto-organisaient, quoi. Il n'y avait pas des experts qui tombaient du ciel, qui expliquaient à tout le monde ce qu'il fallait faire, et les gens, ils suivaient pas comme des moutons, quoi. C'était eux-mêmes qui prenaient leur lutte en main, comme ça se faisait un peu plus à l'époque, et c'est ça aussi qui en a fait le succès, et qui en a fait la force, quoi, bien sûr.
Là, Pierre, est-ce que... Alors, peut-être... C'est 20 ans après, effectivement, tu m'as dit tout à l'heure, la coordination contre le nucléaire et son monde. On a collé beaucoup d'affiches en ville sur cette coordination-là pour donner notre point de vue par rapport au 29 mars, donc le truc organisé par le réseau de sortie nucléaire.
Ouais, alors.
Tu veux dire quelques mots
sur la coordination contre la société nucléaire. Oui, bon, c'est quand même plus de 20 ans après. On va dire qu'une des. Enfin, la principale raison d'être, c'est. Ça part du constat que le réseau Sortir du Nucléaire, c'est une. Comment dire, une grosse fédération de plein d'individus et d'associations, mais qui fait essentiellement un travail de lobbying auprès des politiques. C'est-à-dire que, en fait, l'immense majorité des adhérents, ben, ils cotisent. Et puis, il y a un petit. Un bureau central, on va dire, au réseau avec des porte-parole, etc. Et c'est eux qui font toute l'activité du réseau, quoi. Les gens à côté, c'est juste des cotisants et ils sont juste bons à coller des autocollants et puis c'est tout. Et donc il y avait des gens qui étaient contre à la fois le lobbying auprès des politiques et à la fois le fait de pas participer directement, mais de juste en gros de payer pour avoir quelques spécialistes dans le bureau. Et donc ils se sont dit, il faut s'organiser, ben, comme à chaud justement, c'est-à-dire on s'organise de façon tout horizontale, tous les gens sont égaux, tout le monde participe aux réflexions, tout le monde participe aux actions, et il n'y a pas de chef, et il n'y a pas de hiérarchie. Et donc c'est une des bases de la création de la coordination contre la société nucléaire. Et il y a une deuxième optique derrière qui est de se dire, un, on n'a pas grand-chose à dire aux politiques, parce que de toute façon ils sont à peu près tous pro-nucléaires, vu que c'est un choix stratégique de l'État français depuis très longtemps, le nucléaire, et on peut pas critiquer le nucléaire si on porte pas une critique plus large de la société dans laquelle on est, qui fait qu'il y a eu des centrales nucléaires, quoi. Et ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on voit pas au réseau Sortir du Nucléaire, ou alors très très marginalement, alors que à la coordination contre la société nucléaire, les gens ont pensé que c'était quelque chose qui était très important à mettre en avant et à souligner, quoi. Que il faut être contre le nucléaire radicalement, et ça implique aussi une critique de, par exemple, de la surconsommation d'électricité, quoi. Si il y a des centrales, c'est pour avoir plein d'électricité. Si on est contre les centrales, on est contre le fait qu'il y ait un gaspillage électrique, des TGV qui vont toujours plus vite, des industries qui consomment toujours plus de courant, etc., etc., quoi. On peut pas juste critiquer le nucléaire sans regarder pourquoi autour il y a du nucléaire et pourquoi il y en a eu besoin, quoi, entre guillemets.
Là aussi, la critique de la coordination à l'époque, je pense qu'il y avait une critique aussi de l'énergie renouvelable. Avant, ils commençaient à critiquer déjà, ils ont commencé à critiquer le mix énergétique inventé par un dignitaire du Parti Socialiste, je ne rappelle plus son nom, enfin, Allègre, voilà.
Ouais, parce qu'effectivement, les gens du réseau, donc, ils proposent de remplacer, enfin, ils proposent. Si, on va dire, ils proposent de remplacer les centrales nucléaires par d'autres choses, comme par exemple des milliers d'éoliennes, ou maintenant il y a même l'hydrolien, etc. Et nous, à la coordination contre la société nucléaire, on se disait, mais avant de chercher à construire tout un tas de trucs pour produire encore plus d'électricité, posons-nous la question, pourquoi on a besoin d'électricité, à quoi elle nous sert? Et là, on se rend compte que finalement, ben, le but, c'est pas de produire autant d'électricité pour faire toujours les mêmes conneries avec, pour le dire très vite, mais le but, c'est de se poser la question, pourquoi on en a besoin? Qu'est-ce que ça veut dire, ce fait de produire toujours plus pour consommer toujours plus? On est contre ça, beaucoup de gens sont contre ça d'ailleurs, donc il n'y a pas à remplacer les centrales par des trucs qui peut-être polluent un peu moins, mais qui dans le fond vont nous... même pas... ouais, c'est pas radioactif une éolienne, quoi. Ouais, mais bon, ça détruit le paysage et on sait que ça perturbe les oiseaux.
Non, mais aussi, y a le... j'ai dit des métaux rares. Éolienne, ouais. Donc métaux rares très polluants. En plus,
c'est vrai. Oui, puis de toute façon, on va les chercher en Afrique, donc ça veut dire l'armée française en Afrique, etc. Ouais. Oui, c'est pas des vraies solutions, quoi, ça c'est sûr. Donc nous, on est contre ces fausses solutions qui consistent à produire toujours plus, parce qu'en fait, bon, les éoliennes en France, elles sont majoritairement construites par Areva. Si on est contre le nucléaire, c'est aussi contre la multinationale Areva qui fait justement de la prédation en Afrique, notamment. On n'a pas envie qu'Areva remplace ses centrales par des éoliennes, quoi. Nous, on n'en veut pas. Et donc ça allait avec la critique de la surconsommation d'électricité. On fabrique plein de choses, d'objets en aluminium. L'aluminium, il faut énormément d'électricité pour le fabriquer. À quoi ça sert? Il y a une industrie chimique énorme en France qui produit tout un tas de poisons. Bah, si on arrête de produire toutes ces merdes, on a moins besoin d'électricité, etc., etc. C'était toute cette critique-là qui était portée, quoi.
Oui, j'ai vu un article dans le bulletin de... Enfin, il y a deux bulletins qui est paru. Donc, deux bulletins donc, trouvables sur Internet, différents sites. Trouvables aussi le laboratoire, hein. Donc il y a dedans une critique d'aluminium, effectivement. Il y a des congélateurs qui sont construits en aluminium. Voilà.
Ouais, entre autres.
Voilà, les gens qui s'installent à la campagne utilisent congélateur anti-nucléaire, sauf que voilà.
Ouais. S'il y avait que ça encore, non, mais c'est vrai que l'électricité, elle est partout malheureusement, et des gadgets qui sont faits avec plein d'électriciens, on en a partout. Bah, en France, les capitalistes sont pro-nucléaire parce que ça leur fait une électricité abondante et pas chère. Hein. Ça, il n'y a pas de mystère là-dessus, quoi.
Ouais. Aussi, je tiens à signaler rapidement, on a retrouvé en faisant le track là, le nucléaire dans le pôle nucléaire dans le MOSX, MOX, donc le track d'Interact fait à Valence et Romans, donc par des individus, on ne sait pas qui. Bref. Donc ce track dénonce aussi Capgemini qui ont lancé le comment ça s'appelle, le compteur intelligent, soi-disant, branché sur le réseau, l'informatique, voilà, pour contrôler les populations. Voilà. Voilà. Ouais. Contrôler, pas seulement. Consommation, vous lirez plus dans le tract, voilà.
Ouais. Voilà. C'est pas vraiment contrôler, c'est fliquer la consommation des populations, quoi. Pour plus ou moins adapter la production, mais bon, comme une centrale, ça s'adapte pas comme ça. On se demande ce qu'ils vont adapter, mais bon.
Non, mais là, leur truc, c'est faire croire aux gens que eux-mêmes ils gèrent l'énergie. Mais ouais. Voilà.
Qui participent à la gestion de l'énergie, alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Ça, c'est sûr, ouais. Ouais. Tout à fait. La soi-disant autogestion de la production par les compteurs intelligents, ouais. Soi-disant intelligents. Voilà.
Donc là, autrement, Pierre, j'en profite, tu es là. Tu es venu hier pour le débat sur le film. On avait déjà évoqué ce film. Autrement, tu es militant à l'époque, Socle Nucléaire. Qu'est-ce que c'est, Socle Nucléaire?
Bah écoute, c'est un petit groupe d'individus qui essayent de lutter donc contre l'industrie nucléaire à Lyon et un peu plus dans la région. Et comme je disais, bah sur des bases horizontales, anti-autoritaires, c'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas d'un côté des experts et puis de l'autre côté des gens qui sont là que pour coller des autocollants. Et on réfléchit donc collectivement à la fois à une critique de l'industrie nucléaire et aussi, ça dépasse la critique de l'industrie nucléaire à la critique de cette société, en expliquant en quoi cette société... elle fait un peu miroir au nucléaire, quoi. Puisqu'on est, le nucléaire, c'est un mode de production qui est très hiérarchisé, qui donne une place très importante à des experts, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de démocratie, puisque par définition, ceux qui savent, ils ont la bonne solution. Donc la vie des autres n'a aucune importance. Et ça correspond bien à notre société où finalement, il y a une petite minorité qui décide, et puis les autres, ils votent une fois de temps en temps, comme c'est le cas aujourd'hui, enfin, comme c'était le cas hier plutôt. Mais à part ça, on ne leur demande pas spécialement leurs avis, puisqu'il y a des experts soi-disant super intelligents qui savent mieux que tout le monde et qui prennent toutes les décisions, quoi. Les autres, ils ont qu'à obéir et à fermer leur gueule en dernière analyse. Ça correspond bien à l'industrie nucléaire, comment elle est organisée, ça.
Est-ce que tu peux donner quelques mots du dernier tract vous avez fait le titre, je ne me rappelle plus, Fukushima dedans, mais est-ce que tu as peux donner des infos aux auditeurs de Radio Méga par rapport au qu'est-ce qui se passe au Japon actuellement, voilà. Qu'est-ce que par rapport au pensent les bouteilles, donc.
Ouais, donc notre tract s'appelle Fukushima, on n'oublie pas, pour dire que il y a 3 ans déjà, la catastrophe elle est encore là, elle sera encore là pour des siècles de toute façon, et pour dire que nous on n'oublie pas ce qui se passe au Japon. Alors le Japon, on connaît pas tout ce qui s'y passe, hein, c'est impossible de savoir tout ce qui s'y passe, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a, comment dire, ils ont mis en place des techniques pour faire en sorte de, ce qu'on appelle des techniques de gestion des populations, puisqu'il y a des gens qui ont été déplacés et des gens qui continuent à vivre là-bas dans des conditions difficiles, avec une grosse radioactivité ambiante. Donc il y a un contrôle social qui est énorme, puisque les gens ont tout un tas d'interdictions et d'obligations pour, entre guillemets, s'irradier le moins possible. Je dis bien entre guillemets. Donc, par exemple, ils vont marcher à un endroit et pas à un autre. Les enfants, ils vont aller dans tel cour d'école qui est soi-disant décontaminé et pas dans tel autre, etc. Et donc, les deux trucs, on va dire, qui sont un peu marquants de ça. Le premier, c'est que les enfants, maintenant, ils vivent avec un dosimètre autour du cou en permanence, c'est-à-dire qu'ils le quittent que pour dormir. Et il y a donc tout un tas de mesures plus ou moins pertinentes pour éviter d'être trop contaminé par la radioactivité. Alors, une qui nous a marqué quand on voit des reportages sur ce qui se passe, c'est que les gens, ils mettent des bouteilles d'eau aux fenêtres. Et personne n'explique pourquoi. Voilà. On a cherché à comprendre pourquoi, parce que c'est pas expliqué. Alors l'eau, ça stoppe un peu les rayonnements. Par exemple, dans une centrale nucléaire, quand on arrête le réacteur, on le noie littéralement sous 10 mètres d'eau. Mais il y a 10 mètres d'eau, c'est beaucoup 10 mètres d'eau. Là, on met des bouteilles d'eau pleines d'eau aux fenêtres, comme si 10 cm d'eau dans une bouteille en plastique, ça allait bloquer les radiations et protéger l'intérieur de la maison des gens, quoi. Donc il faut se dire qu'il y a tout un tas de mesures dont on peut dire, elles sont un peu utiles parce qu'elles vont diminuer la radioactivité. Par exemple, pas aller se promener dans l'herbe quand il y a plein de rayonnement dedans, pourquoi pas. Et il y a tout un tas de mesures qui donnent l'impression d'être plutôt là pour créer l'illusion qu'on fait quelque chose, ouais, qu'il y a des experts qui arrivent à aider un petit peu à gérer la situation, mais qu'en réalité, ça cache le fait qu'on gère rien du tout, quoi. De la même façon, le dosimètre au cou des enfants, il ne les protège pas, les enfants. Juste dans 10 ans, on regardera la quantité de radiation qu'ils ont eue, puis quand ils auront un cancer, on pourra leur dire « Ah bah oui, c'est normal, vous avez bouffé plein de rayons, quoi ». Mais ça les protège en quoi? Ça les protège en rien du tout. En fait, c'est des cobayes, ces gens-là. Ils participent à une expérience grandeur nature, quoi, c'est tout.
C'est affreux, quoi.
C'est affreux, ouais.
Expérience mondiale, parce que, en fait, l'AUA, de l'organisme, tu peux dire deux mots sur l'AUA?
Ouais, l'AUA, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique, donc en gros, c'est le lobby industriel des travailleurs, enfin des grandes industries du nucléaire, qui, à la fois, bon ben, comme tous les lobbies industriels mondiaux, travaillent à faire évoluer l'industrie et à faire de la publicité, mais qui aussi s'est impliqué dans l'acceptation sociale du nucléaire, c'est-à-dire qu'ils ont réfléchi à comment faire en sorte que les gens soient pas anti-nucléaires, et ils sont impliqués notamment après Tchernobyl. Les gens ont compris après Tchernobyl que le nucléaire c'était vraiment mauvais, et donc eux, ils ont participé à une fabrication d'une espèce de propagande pour dire que, ben, si on arrive à vivre dans les territoires contaminés par Tchernobyl, et donc ils participent à, pareil un peu qu'à Fukushima finalement, à aider les gens entre guillemets à vivre là-bas dans des territoires qui sont complètement contaminés. Évidemment, les gens ils sont malades là-bas. Donc la IEA, explique aux gens ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, soi-disant pour être un peu moins contaminé, quoi, pour le dire vite.
Est-ce que cet organisme fonctionne à côté de l'ONU?
C'est particulier, c'est pas lié à l'ONU. Par contre, il y a une bizarrerie, tu fais bien de le souligner. L'Organisation Mondiale de la Santé, donc qui est un organisme de l'ONU, fonctionne avec l'AIEA. Et même plus précisément, l'Organisation Mondiale de la Santé, dans ses statuts, détermine que c'est pas eux qui vont s'occuper de la santé dans les situations nucléaires, mais ils délèguent cette tâche à l'AIEA. Ce qui fait que l'AIEA, pour les problèmes de santé liés au nucléaire, est à la fois jugée partie, quoi. Et c'est pas l'OMS qui s'en occupe. C'est assez délirant, c'est parfait, ouais. C'est bien fait quelque part. Et que dire d'autre? Donc oui, l'AIEA participe un peu à l'acceptation du nucléaire, quoi. C'est un peu comme si le lobby mondial de l'acier faisait en sorte de faire de la propagande pour l'acier en permanence et cacher, je sais pas moi, les risques encourus par les travailleurs dans l'aciérie, quoi. C'est vraiment, ils veulent tout contrôler quelque part, quoi.
Yeah.
J'ai vu Greenpeace s'est manifesté pour donner. Donner. Comment ça s'appelle?
De l'iode, ouais. Et ils faisaient quoi alors?
Pour dire que c'est ridicule.
Ridicule, voilà.
Donner ça aux gens pour dire.
Ben, c'est pas vraiment suffisant. C'est-à-dire qu'une fois, s'il y a un réacteur qui pète, bon. Déjà, l'iode, il faudrait le prendre 2 heures avant que ça pète. Donc, à moins d'être Madame Soleil, on saura pas a priori à l'avance. Et il n'y a pas que l'iode, il y a plein d'autres poisons. Donc, ça protège peut-être un petit peu contre l'iode, mais ça fait pas grand-chose en réalité. Le césium, par exemple, qui est le deuxième plus gros poison en abondance, qui est un peu partout à Fukushima, bah, il n'y a rien pour l'empêcher de rentrer dans l'organisme, quoi. Donc, on te donne de l'iode, c'est sympa, t'auras pas d'iode, mais t'auras du césium, donc t'auras un cancer quand même, quoi.
Mais là, je reviens quand même l'histoire de la coordination. La coordination, à l'époque, ils ont fait une critique sérieuse par rapport à ça, à cette l'iode. Donc, il y a un texte qui est sorti. Là, Greenpeace complètement oublié, quoi, ça.
Pour moi, c'est...
ils sont un peu dans le spectacle, on va dire, quoi. Ils veulent faire un peu du sensationnel, mais sans approfondir la critique, quoi. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne, on va dire.
Mais ça, je suis d'accord avec toi. Je veux pas mobiliser sur la population sur la peur, parce qu'il faut que les gens, la peur, ça fait le réflexe de peur, ça fait aux gens de souvent l'aboutit du fascisme, voilà. Enfin, souvent, mais c'est pas une réflexion.
À mon avis, tu as raccourci un petit peu. Par contre, c'est sûr qu'à la coordination, on y a réfléchi. Et effectivement, la peur, c'est pas ce qui mobilise les gens, ou en tout cas, ça les mobilise pas intelligemment. C'est pour ça qu'on s'est concentré plutôt sur les conséquences sociales du nucléaire. Et au lieu de faire peur avec la catastrophe, on a préféré montrer, notamment dans le bulletin numéro 2 de la coordination, il y a un gros travail sur la gestion des populations en Biélorussie, donc après Tchernobyl, pour montrer que bah, finalement, après la catastrophe, on continue à leur mentir et à se foutre de leur gueule. Mais avant la catastrophe, c'est déjà le cas, puisque avant la catastrophe arrive à EDF, ils nous mentent en permanence et ils se moquent de nous. Donc finalement, le but, c'était de montrer qu'il n'y a rien qui change et que la vraie solution, c'est de critiquer notre société autoritaire, où ben, encore une fois, il y a des décisions qui sont prises, c'est ce qu'ils ont vécu à chaud, hein. Des décisions qui sont prises, on fait semblant de leur demander leur avis, et puis s'ils ne sont pas contents, on leur envoie des chars et les gendarmes, et puis ils n'ont qu'à fermer leur gueule, quoi. Et avant, après la catastrophe, c'est la continuation du même, sauf qu'après la catastrophe, on te ment, mais en plus tu bouffes de la radiation en grosse quantité. Donc c'est encore pire. Donc oui, au lieu d'assister sur la peur en disant oulala, la catastrophe c'est terrible, on a bien montré que le nucléaire c'est un mode de gestion sociale permanent, c'est-à-dire qu'on t'impose une horreur, on fait en sorte que tu l'acceptes d'une façon ou d'une autre, parce que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a plus de critique anti-nucléaire, parce qu'on vit avec l'abondance électrique, elle est plus difficile à remettre en cause maintenant qu'elle existe, quoi, malheureusement. Les gens, ils sont attachés à leur confort électrique, avec avoir des télés, des chanifis, tous les gadgets possibles et imaginables, et le mode de production tel qu'il est, il est beaucoup basé, mine de rien, sur l'électricité. Donc l'acceptation, elle s'est faite aussi comme ça. N'empêche que ceux qui ne veulent pas, ben, on va leur taper sur la tête jusqu'à ce qu'ils acceptent, quoi. Et ça, il y a une continuité totale là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté.
Mais en même temps, hier soir, c'est bien que tu dis ça, hier soir au débat, il y avait un jeune qui venait de Caen, qui parlait d'une formation sociologue à Caen.
Ouais, parce que comme les spécialistes du nucléaire, ils savent bien construire des centrales, mais convaincre les populations, ils ont compris que leurs mensonges, ça passait plus. Donc maintenant, ils font appel à des sociologues pour comprendre comment les gens réfléchissent et comment ils sont pas dupes, quelque part, comment aussi font les militants antinucléaires pour expliquer un peu aux gens ce que c'est que le nucléaire, pour arriver plus intelligemment à bloquer toute forme de contestation, quoi. Essayer de comprendre, c'est ce que font les publicitaires aussi, comment est-ce qu'il faut parler aux gens, le type d'argument qu'il faut mettre, le type d'argument des antinucléaires, dans l'histoire, ça a marché vu qu'il y a eu de la contestation contre les centrales. Donc comprendre les arguments antinucléaires pour essayer de les retourner, quoi, pour essayer de les rendre inopérants. Donc effectivement, ils font appel à pas mal de sociologues pour ça, ouais, les pro-nucléaires.
En fait, hein, ils appellent sociologues aussi les jeunes qui sortent d'école master de communication pour faire passer le message, voilà.
Bah c'est ça, t'as des communicants et des sociologues. Les communicants, c'est pour inventer les slogans publicitaires. Et les sociologues, c'est pour comprendre si les slogans marchent pas, pour comment qu'on marche la tête des gens en face, pour bien les bien leur faire avaler la pilule, quoi, quelque part. Hein. C'est le rôle des sociologues,
voilà,
quoi.
C'est clair, nous, on réfléchit comme ça, voilà. Indifféremment que des réseaux, voilà.
Ouais.
On est sur cette base-là. Si jamais que les gens veulent prendre contact, ils peuvent écrire au laboratoire à l'adresse mise sur le tract, distribue le nucléaire dans le box. Voilà.
Ouais, effectivement, le laboratoire 8 place Saint-Jean à Valence. Et donc, tu as raison de parler un petit peu du MOX, parce que donc, le MOX, on va en avoir de plus en plus. dans les centrales. Et ça fait un peu le lien avec la volonté, on va dire, du lobby nucléaire français d'utiliser de plus en plus le plutonium, donc qui est le plus toxique des déchets nucléaires, pour le dire rapidement, qui s'accumule à la Hague. Il faut en faire quelque chose. Donc ils essaient de le brûler dans les centrales normales, donc d'où le combustible MOX, mais on n'en met qu'un petit peu à chaque fois. Donc ce qu'ils veulent relancer aussi, c'est les filières qu'on appelle plutonium, c'est-à-dire les surgénérateurs, comme il y a eu Phoenix et Super Phoenix. Super Phoenix n'a jamais vraiment marché, donc il est arrêté maintenant, mais ils veulent en reconstruire un qui est Astrid, alors je crois que c'est vers Marcoule, le Astrid, donc ce serait un réacteur qui fonctionnerait que au plutonium, donc il serait encore plus dangereux que les trucs qu'on a actuellement. Donc on voit Tchernobyl, c'est déjà gravissime, Astrid ce serait encore pire, quoi. Il faut bien en être conscient, quoi.
Donc merci, parce que je pense le prochain tract, je suis Madame Soleil, excuse-moi, Monsieur Soleil, pour dire, je suis pas pour les photovoltaïques, hein. Voilà, une blague. Et le prochain projet, c'est sûrement ça, sur ce base-là, non technique, c'est pour moi, c'est une réflexion de qu'est-ce que ça veut dire que le mécanisme, comment ça s'appelle, qui pousse Astrid. Voilà,
Astrid,
voilà. Astrid, parce que c'est le prochain, après l'EPR, ça s'appelle ça la quatrième génération, Astrid.
Ouais, enfin, qui est en fait une génération très ancienne, puisque Rhapsody, ça a été fait dans les années, je crois, 50-60, donc ça, c'était plus expérimental. Phoenix, ça date des années 70, donc en fait, c'est assez vieux comme truc, mais bon, régulièrement, ils en font un nouveau en disant que c'est nouveau, quoi. Bah, c'est, bon, on parlait tout à l'heure, ils se disent qu'en disant à chaque fois que c'est nouveau, peut-être ça fera passer la pilule en faisant croire que c'est plus sûr. En réalité, on sait que c'est pas sûr du tout. C'est des machins qui fonctionnent à la place de l'eau, il y a du sodium liquide, et un truc qui explose au contact de l'eau et qui s'enflamme spontanément au contact de l'air. Donc, on va dire, quand il y a une fuite d'eau, bon, elle est radioactive, mais au moins l'eau, ça brûle pas. Là, il y aura du sodium, donc ce sera tout de suite dramatique, quoi. Donc ça montre que c'est bien un délire complet, ce truc-là.
Autrement, ouais, on a abordé aussi dans la discussion de, on a Pierre est venu par parler de l'utilisation de trifluorure de chlore à Tricastin pour nettoyer les barres d'aluminium. Voilà.
Les barrières, ouais. Ou non, elles sont en acier, je crois. Enfin, c'est un alliage. On ne sait pas ce qu'il y a dedans parce que c'est encore un secret. Mais donc, ouais, donc il y a la centrale, enfin, pas la centrale, pardon, l'usine Georges Besse 1 d'enrichissement, donc qui a été arrêtée puisqu'ils ont remplacé par Georges Besse 2, qui fonctionne différemment. Et donc, dans Georges Besse 1, ben, il y a des espèces de barrières poreuses en métal, donc essentiellement de l'acier, qu'ils aimeraient bien recycler. Le problème, c'est qu'il y a plein d'uranium dedans qui contamine, donc c'est un déchet nucléaire, tout ça. Donc, ils envoient du trifluorure de chlore pour, entre guillemets, faire un espèce de rinçage pour récupérer l'uranium, pour après, ben, s'il n'y a plus d'uranium, ou qu'il n'y en a plus beaucoup en tout cas, dans l'acier, ils vendront ça aux ferrailleurs et ils se feront du pognon en faisant recycler l'acier. Pour le moment, ils ne peuvent pas parce qu'il y a trop de radioactivité, on verrait tout de suite que c'est radioactif. Et ils utilisent du trifluorure de chlore, donc qui est un gaz alors d'une toxicité absolument extrême, 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 c'est sans doute l'un des gaz les plus dangereux qu'on ait jamais inventé. C'est un truc qui attaque la peau, qui brûle les poumons, donc un peu comme les gaz de combat dans les tranchées à l'époque, mais encore plus virulent. Et c'est un gaz qui brûle avec à peu près, enfin un gaz ou un liquide d'ailleurs, parce qu'il est liquide au départ, qui brûle à peu près tout ce qui bouge. Et une fois qu'il a commencé à brûler, on ne sait pas l'éteindre, ce truc. C'est-à-dire que même si on verse du sable, bah, ça va brûler le sable. Si on met les trucs style amiante, etc., qui font étouffoir de feu, ça n'arrivera pas à l'étouffer. Alors comme disait un des premiers experts du trifluorure de chlore, hein, qui était spécialiste des carburants pour fusées, donc il connaissait bien les produits dangereux. Il y a une seule protection contre le trifluorure de chlore, c'est une bonne paire de tennis et on court. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien pour s'en protéger, quoi. Ça brûle et on s'enfuit en courant, quoi.
Mais autrement, Pierre, est-ce que tu as lu, est-ce que tu as lu sur Lyon l'accident qui est arrivé à deux ouvriers à la centrale de Tricastin au cours de l'utilisation de trifluorure en septembre?
Non, j'en ai jamais entendu parler, c'est toi qui me l'apprends. Bah ça veut dire qu'il y a une sacrée omerta là-dessus, parce qu'effectivement, ils n'ont pas envie qu'on en parle. Parce qu'accident avec du trifluorure de chlore, ça veut dire que s'il s'est évaporé un petit peu, ils ont les poumons brûlés, les gens qui ont été accidentés. Alors, comme moi, j'ai aucune information, je ne sais pas. Hein, est-ce qu'ils ont été brûlés? Est-ce qu'ils ont été empoisonnés, intoxiqués? Si c'est rentré dans leur organisme, c'est vraiment triste pour eux. Bonjour, ouais, voilà. Là, on pense que peut-être qu'ils sont mis au secret dans un hôpital quelque part, parce que ça doit être assez terrible ce qui leur est arrivé. Ouais, mais effectivement, j'ai aucune information là-dessus, absolument aucune.
L'information donne un scoop à Radio Méga, à Radio Labo. Donc le scoop, après l'accident, l'ASN a demandé d'arrêter le chantier pendant 2 mois. Voilà.
D'accord, ouais. Bah, peut-être le temps de remettre en place des normes de sécurité. Il faut savoir que le trifluorure de chlore, il est utilisé dans l'industrie en quantité de l'ordre de quelques litres, quoi, parce qu'il y a des industries, comme c'est un très bon décapant, qui s'en servent pour nettoyer. Ben là, Tricastin, si mes souvenirs sont bons, ils en ont mis 50 tonnes sur le site. Donc ça veut dire que les gens, ils manipulent des très grosses bonbonnes. Si la bonbonne se casse par terre et qu'elle fuit, ça va attaquer le béton, pour dire la dangerosité du trifluoreux de chlore. S'il y a le moindre truc un peu combustible, ça va partir en feu et ça va faire un feu qui va empoisonner la région sur des centaines de mètres, voire des kilomètres. Oui, parce que t'as raison de le rappeler. On s'était rendu compte que quand ils ont fait le plan particulier d'intervention, ben, ils avaient considéré que finalement ce serait pas trop grave. Ils n'avaient pas voulu faire un plan qui s'étale à des kilomètres autour, alors que normalement ils auraient dû, parce que si ça commence à brûler, les vapeurs toxiques, elles vont être toxiques très très loin, quoi. Et les gens, ils vont respirer vraiment des saletés. Mais apparemment, ils avaient décidé de façon un peu arbitraire que c'était pas si grave que ça, que là, en gros, la fumée, elle irait pas loin et que tout irait bien, quoi. Mais ils savaient dès le départ que s'il y avait des problèmes, ça serait grave, quoi. Et là, il vaudrait mieux partir en courant, ouais, effectivement.
Voilà, donc l'information que on va. C'est pas de différence, mais nous, on travaille très très précisément pour donner toutes les infos, parce que il faut que les gens prennent en main l'information pour essayer de comprendre. Voilà. Voilà. C'est le but, c'est notre horizontalité. Voilà.
Voilà. Ouais, il faut donner tous les éléments pour que les gens ils puissent se faire une opinion par eux-mêmes et qu'ils puissent agir de façon, effectivement, comme tu dis, horizontale, que chacun ait la capacité de savoir pourquoi il lutte, enfin déjà de comprendre ce qui lui arrive autour de lui, et après d'agir en connaissance de cause, quoi, de façon conséquente, et de pas s'en remettre à d'autres, juste en cotisant à une organisation, à un réseau quelconque, et puis on laisse faire les autres là, c'est chacun sait ce qu'il en est, chacun réfléchit de façon autonome. Ça ne veut pas dire qu'on réfléchit tout seul, on réfléchit collectivement. Il y a tout le monde a quelque chose à apporter, mais enfin chacun participe à la réflexion, quoi. Et ça permet à chacun de participer aux décisions, de prendre un peu la maîtrise de sa vie, quoi, en quelque sorte.
Je pense, c'est voilà, on donne rendez-vous aux auditeurs de Radio Méga, enfin, aux auditeurs de l'émission, au laboratoire pour avoir de plus d'informations, voilà. C'est
pour
ouvert.
Venir discuter, quoi. Voilà. Pour venir débattre aussi, c'est à ça que sert le laboratoire, c'est pour le débat, quoi.
Un lieu de pensée construite.
Voilà, ouais, c'est les gens viennent chercher l'information, ils viennent en amener aussi s'ils veulent, et ils viennent pour la discussion, pour l'enrichissement collectif de chacun, quoi, c'est ça.
Merci.
Bah, merci à toi, Luc.
Oui, donc voilà. Donc je vais reprendre l'information que j'ai donnée tout à l'heure par rapport à la soirée du 10 avril à Cré, à l'Eden Cinéma de Cré. À partir de 20h30, pour la projection débat organisée en collaboration avec Amnesty International et l'ASTI, association de solidarité avec tous les immigrés. Projection de film Call Me Cuchu, qui relate la vie des gays, lesbiennes et transgenres en Ouganda, pays où les LGBT subissent une forte oppression comme d'autres. Dans d'autres pays africains. Les bénéfices des entrées, 5 euros, iront à un jeune Ougandais récemment pris en charge dans notre vallée, c'est-à-dire que vallée d'Idoua, et qui a dû fuir son pays du fait qu'il était outé par un tabloïd de là-bas. Il témoignera lors de cette soirée débat. Jean-Louis Bougeron, responsable d'Annecy Paris, présent à la première marche des fiertés de Cré, animera le débat à l'issue de la projection. Venez nombreux vous informer sur la situation des gays et lesbiennes et transgenres à travers le monde et poursuivre l'effort de solidarité envers ce jeune Ougandais autour duquel la solidarité locale s'était organisée. Voilà. Autrement, l'autre info qu'on a passée aussi tout à l'heure, on a parlé du film du 11-04 au laboratoire. Il y a donc l'11, c'est un film sur une fiction, hein. À travers l'histoire croisée de plusieurs personnes qui se rendent au parloir, on capte un peu plus ce que signifie un proche enfermé et comment la prison pèse à la fois sur les détenus mais aussi sur les personnes dehors. Voilà. Autrement, le 20, alors ça c'est le 11 à partir de 20h au laboratoire 8 Place Saint-Jean.
Alors le 25-04, là, on peut faire le lien, enfin, le lien peut-être, projection de Tomboy, film interdit de diffusion dans les écoles, voilà. Tomboy, c'est fiction de Céline Sciamma, 2011. À travers l'histoire d'une personne qui grandit, on voit comment la famille, l'école et la société tout entière conditionnent chacun, chacune, à se conformer à la case jar ou fille, en l'enfermant dans son jar. Voilà. Donc, gratos cette soirée, c'est au laboratoire. Autrement, j'ai un fly de sous les yeux d'une journée, l'après-midi de 12 avril 2014, à Romans, à la salle Charles Michel. Donc c'est prix d'entrée plus adhésion, 4 euros. Alors, événement de soutien à l'art libre. À partir de 14h, expo graphique, concert et musique. Joachim, 14h30. Joachim, chantons d'ailleurs. 15h15, Big Joe, chanson française. 16h, les pharmaciens, reggae, kist, rock bruyant, parfois. Bon, jeu de mots, bien sûr. New Jazz, alors 18h, New Jazz Note, 10h15, 9h45. Donc c'est Kleber T. Serge. Autrement, il y a un groupe ska punk bien connu dans la région de l'Ardèche, hein, de groupe ska punk ardéchois, les Chiens de la Casse. Voilà, ils passent là et autrement, donc 5h35. Autrement, avant, il y a Der Patchwork Band, farfelu. Voilà, fin farfelu. 19h30, voilà. Là, cette soirée, on sera présent, on était invité au laboratoire pour faire une table de presse. Merci les gars, faire circuler des informations. Voilà, vous pouvez contacter le laboratoire. Je rappelle les horaires de permanence. C'est le mercredi. Tous les mercredis, à partir de 16h30, au laboratoire 8 Place Saint-Jean, la porte sera ouverte, bien sûr, pour tout le monde, tranquille. Il y a plein de livres à lire, brochures à consulter, plein de discussions possibles. Donc c'est 16h30 jusqu'à 18h. Autrement, il y a le vendredi, à partir de 17h30, jusqu'à... qui reste le monde, quoi. Peut-être l'apéro, peut-être, hein. Sans alcool, hein, parce que moi, je bois pas. Excusez-moi. Voilà, je blague. Et merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Merci beaucoup d'écouter Radio Méga. Et voilà. Hein ? Ouais. Donc.
Pense aux dates.
Ouais. La prochaine émission. La prochaine émission, de semaine prochaine, donc lundi prochain, hein? La semaine prochaine, sûrement, on a des invités, là, peut-être, c'est possible, il y a le, comment ça s'appelle, le lieu de Valence, Artois, donc une salle de salle d'exposition. On va discuter avec une personne pour présenter ce lieu, valentinois. C'est hyper intéressant, c'est un lieu artistique pointu, hyper moderne. Il y a des livres d'art, d'artistes dedans, enfin, hyper intéressant. Donc, il y a eu une exposition la semaine dernière. Voilà. Il y a un buffet splendide organisé là-bas. Voilà. Ok. Tranquille. Voilà. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir.